Bonjour à tous, il est 15h ici à Paris, 16h à Gaza et à Tel Aviv.
Karine Bellicha.
À la une, ce nouvel épisode de l'échange otages contre prisonniers entre Israël et le Hamas. Trois Israéliens ont retrouvé la liberté après plus de 15 mois de captivité. 183 détenus palestiniens sont sortis des prisons israéliennes et des malades gazaouis sont transférés au compte-gouttes vers l'Égypte pour y être soignés. Un nouveau leader pour les démocrates après la claque de la présidentielle américaine. Le parti se choisit un chef aujourd'hui, mais pour défendre quelle vision de leur pays, les démocrates s'interrogent encore. Et puis les étudiants serbes maintiennent la pression 3 mois après l'effondrement d'un haut vent dans la gare de la deuxième ville du pays. Un accident qui avait fait 15 morts et qui reste le symbole de la corruption en Serbie. Les étudiants défilent en masse en ce moment même et ils ont mis en place une stratégie de contournement. Pas question de s'en prendre directement au président. Une nouvelle fois, une foule s'était réunie sur la place des otages à Tel Aviv. Les Israéliens ont suivi minute par minute les libérations ce matin. Après près de 16 mois de captivité, 3 otages israéliens ont retrouvé leur famille, libérés après avoir été entourés d'hommes en armes du Hamas, remis à la Croix-Rouge. Processus habituel maintenant, mais pas de scène de chaos comme jeudi dernier. Il s'agit de 3 hommes, le franco-israélien Ofer Calderon, Keith Siegel et Yarden Bibas. Israël exige une nouvelle fois des informations sur le sort de l'épouse de Yarden Bibas, ainsi que 2 de ses enfants de 2 et 5 ans dont on est sans nouvelles depuis leur enlèvement le 7 octobre 2023. Côté palestinien maintenant, en contrepartie de ces libérations, 183 détenus ont été relâchés par Israël. La plupart ont été renvoyés à Gaza, l'un expulsé vers l'Égypte et les autres accueillis à Beit Hounia, en Cisjordanie occupée. À Gaza comme en Cisjordanie, ils ont été accueillis sous les applaudissements. Autre avancée de la trêve entre Israël et le Hamas, le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte a rouvert aujourd'hui. L'Union européenne a déployé une mission d'assistance sur place. Au compte-gouttes, des dizaines de malades palestiniens doivent être évacués dans la journée vers l'Égypte. Au Caire, les explications d'Alexandre Bouchianti.
Le terminal de Rafah avait été fermé par l'Égypte au mois de mai après son occupation par l'armée israélienne. L'Égypte soutenait que, conformément aux accords conclus lors du retrait israélien de la bande en 2005, c'était aux Palestiniens de contrôler le terminal côté Gaza. Rafah est un terminal de voyageurs qui permettait principalement aux Gazaouis de partir vers l'Égypte et surtout l'étranger. Les Palestiniens devaient justifier d'un visa vers le pays de destination pour passer. Les marchandises, par contre, entraient à Gaza par le biais du terminal voisin de Kerem Shalom entre l'Égypte et Israël. Une 50aine de malades doivent traverser samedi le terminal et être transférés vers les hôpitaux locaux ou au Caire selon les cas. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a entre 12 et 14 000 blessés ou malades qui doivent être évacués de Gaza. Plusieurs pays ont déjà proposé de les accueillir. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Plus au nord, en Syrie, l'ONG OSDH rapporte que des hommes armés ont tué au moins 10 personnes dans un village alaouite de la région de Hama, à l'ouest du pays. Alors que le nouveau pouvoir promet une Syrie inclusive, les minorités craignent toujours d'être la cible de violence. C'est le cas des alaouites, la communauté dont est issu le président déchu. Oriane Verdier, 162 personnes de cette communauté ont été exécutées sommairement depuis la chute de Bachar al-Assad.
Selon l'OSDH, des hommes armés sont passés de maison en maison, tirant avec des armes de poing équipées de silencieux avant de s'enfuir. Une femme âgée et un enfant figureraient parmi les victimes. Le journal syrien Al-Watan affirme, lui, que ces exécutions ont été commises par des membres des forces de sécurité qui auraient encerclé le village à la recherche d'anciens officiers et soldats. La protection des minorités perçues comme pro-régime est l'un des principaux défis des nouvelles autorités en place. Dès la prise d'Alep, Ahmed Al-Shara, aujourd'hui président de transition, a assuré qu'il protégerait toutes les minorités et empêcherait tout acte de vengeance. Mais de nombreux groupes armés sont réunis sous son commandement. Malgré la volonté de tous les rassembler sous une même bannière, il semble aujourd'hui difficile de les contrôler. Les nouvelles autorités accusent des membres de groupes criminels de profiter de campagnes de ratissage contre des hors-la-loi pour commettre des violences contre des habitants. Ces 10 derniers jours, au moins 45 personnes ont été tuées. La plupart de ces victimes étaient des officiers du régime d'Assad qui avaient régularisé leur situation selon la procédure mise en place par les nouvelles autorités.
Marco Rubio est à Panama City. Le chef de la diplomatie américaine devrait réitérer sur place les déclarations tonitruantes de son président. Donald Trump a juré de récupérer le canal du Panama, une voie navigable stratégique entre l'Atlantique et le Pacifique, construite certes par les États-Unis, mais transférée au Panama en 1999. Les autorités du pays s'opposent à cette rétrocession. En attendant, à Washington, Donald Trump a décidé de passer de la menace aux actes sur un autre dossier, celui des droits de douane. Le président américain doit signer dans quelques heures un décret concernant ses voisins. Les marchandises en provenance du Mexique et du Canada seront taxées à 25%. Les démocrates, eux, sont toujours sonnés depuis la défaite de Kamala Harris et le retour de Donald Trump aux commandes. Difficile de se relever, alors qu'aujourd'hui, leur nouveau chef doit être élu lors d'une convention nationale. Plus de 400 cadres du parti sont appelés à voter. Les démocrates s'interrogent sur la stratégie de leur camp pour repartir au combat. Reportage à Atlanta d'Edouard Maille.
Sloan promène ses deux chiens. La démocrate espère un changement avec la nouvelle direction de son parti.
C'est presque comme si on ne se prononçait sur rien, car on veut défendre tout le monde, comme les groupes LGBTQ, que je soutiens évidemment. Je soutiens les personnes trans, comme tous les démocrates. Mais on peut aider tout le monde sans seulement parler des petits groupes. On doit aborder les sujets qui touchent tout le monde. Ce qu'on va faire pour l'économie, et les démocrates ont fait un très mauvais travail là-dessus.
Aya n'est pas de cet avis. Pour lui, le parti n'a pas assez défendu les minorités et plus généralement les intérêts de tous les Américains.
Ils ne se sont pas attaqués aux problèmes d'insécurité économique, d'instabilité et d'injustice. Ils n'ont pas fait en sorte que chacun puisse se syndiquer sans avoir peur de représailles. Ils n'ont pas fait en sorte d'élargir l'accès à la santé.
Jason aimerait un parti plus agressif pour s'opposer à Donald Trump avec un changement dans la direction.
Ils devraient sûrement arrêter de prendre des personnes qui viennent de l'establishment. Ils l'ont fait pendant longtemps et continuent de perdre avec cette stratégie.
Jason ajoute que les démocrates doivent réaliser que leur électorat n'est pas de centre-droit, mais plus à gauche. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Il aura fallu 7 mois et demi pour trouver la solution en Belgique. Hier soir, le chef des conservateurs flamands est parvenu à trouver un accord de gouvernement. Bart De Wever pourrait prêter serment comme Premier ministre dès lundi. En Serbie, un rassemblement monstre commence en ce moment même à Novi Sad, la deuxième ville du pays. La contestation ne faiblit pas depuis 3 mois, jour pour jour, après l'effondrement d'un auvent de la gare de Novi Sad. 15 personnes étaient décédées, un accident qui est devenu le symbole de la corruption en Serbie. Sous la pression, le Premier ministre serbe a démissionné il y a quelques jours, mais pour les étudiants, la question n'est pas là. Ils veulent des réformes institutionnelles contre la corruption. Et ils font très attention à ne pas attaquer frontalement l'homme fort de Serbie, le président Aleksandar Vučić, selon Tamara Mirković, journaliste franco-serbe au Courrier des Balkans. On écoute son analyse.
Les étudiants font très attention justement à s'éloigner de la personne de Vučić. C'est pas la personne responsable pour ce qui s'est passé. Donc bien sûr que derrière, en fait, une fois que c'est la première revendication des étudiants, qui est la publication de toute la documentation relative à la reconstruction de la gare de Novi Sad, une fois que ce sera publié, là bien sûr, on peut voir qu'il y a beaucoup de corruption, que tout le monde est responsable, on peut remonter très haut en fait. Mais je pense que c'est là où c'est très intelligent, c'est qu'ils vont chercher en fait, nous on veut que les institutions fassent leur travail. Et Vučić, ça le démange. En fait, lui, il adore être à la télévision, dire que c'est toujours tout le monde s'acharne sur lui. Sauf que là, aujourd'hui, et ça qui est drôle, c'est que les étudiants, même en manif, ils disent on t'a rien demandé. C'est vraiment ça, c'est là même, c'est pour ça que la démission là, du Premier ministre l'autre jour, en fait, ça fait aucun effet, parce que les étudiants disent on a ces revendications très précises, on veut que le système fonctionne depuis beaucoup trop longtemps, il ne fonctionne pas, il est corrompu. Ça pourrait être Vučić, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est ça qui fait que lui, il ne sait pas sur quel pied danser, parce que tout à coup, il n'est plus au centre de l'histoire, en fait.
Tara Mirković, journaliste franco-serbe au Courrier des Balkans, interrogée par Carlota Morteo. Et puis un mot de rugby pour refermer ce journal. Le tournoi des Six Nations a bien commencé pour les Bleus. Ils se sont très largement imposés face au Pays de Galles 43-0. Suite de la première journée avec le match Écosse-Italie dans quelques minutes, puis Irlande-Angleterre à 17h45 temps universel. Merci de rester à l'écoute d'RFI.